Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Des secteurs économiques en tension, qu'il s'agisse de la restauration, du BTP ou de l'informatique, l'Europe a besoin de main-d'œuvre. Une immigration économique en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne. Plus de 3 millions de permis de résidence ont été délivrés l'an dernier pour toute l'UE. Et en Allemagne, on donne le ton, favoriser l'entrée de travailleurs diplômés pour compenser la baisse démographique du pays. C'est l'une des grandes réformes adoptées cet été pour répondre à un manque conséquent, 1,2 million d'emplois non pourvus. Les explications depuis Berlin de Julien Méchaussy.
Réclamée à corps et à cri par le patronat, l'Allemagne s'est enfin dotée pour la première fois d'une législation sur l'immigration. Et l'objectif déclaré est clair, selon les mots de Horst Seehofer, ministre de l'Intérieur et de l'Immigration. Nous avons besoin de main-d'œuvre de pays tiers, comprenez, hors Union européenne. Et il y a urgence. Avec sa bonne santé économique, doublée d'une très faible natalité, la population active devrait diminuer de près de 4 millions de personnes d'ici 2030. Plus de 60% des entreprises allemandes voient dans ce manque de main-d'œuvre une menace pour leur existence. Et ce sont les secteurs stratégiques qui sont les plus touchés, l'informatique, les technologies de l'information ou encore les soins à la personne. Cette nouvelle législation fait sauter de nombreuses barrières. Les employeurs n'auront ainsi plus à démontrer qu'ils ne sont pas en mesure d'embaucher un Allemand ou un ressortissant de l'Union européenne. Les informaticiens tant convoités de pays tiers pourront même venir travailler en Allemagne sans justifier d'une formation. Plusieurs années d'expérience professionnelle suffiront désormais. Autre mesure qui illustre l'urgence d'attirer des travailleurs qualifiés, les migrants peuvent désormais venir en Allemagne sans contrat d'embauche pendant une période de 6 mois afin de trouver un emploi. Durant cette période, les migrants n'auront toutefois droit à aucune aide sociale et leur permis de séjour sera prolongé en cas d'embauche. La reconnaissance des diplômes a été elle aussi grandement simplifiée. Des mesures fortes à la mesure du défi qui attend le pays. Jusqu'en 2050, l'Allemagne aura besoin chaque année de 400 000 travailleurs originaires de pays tiers.
Et qu'en est-il dans le reste de l'Europe et en France? C'est ce que va nous expliquer notre chroniqueur Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Commençons par la France qui va adopter une nouvelle loi sur l'immigration et qui annonce des quotas pour les migrants économiques des pays tiers. Un sujet assez polémique dans le pays qui a déjà été proposé puis abandonné mais qui est à nouveau mis en avant. Pourquoi?
Sur un plan politique, le gouvernement joue l'ambiguïté. En parlant de quotas, il espère séduire un électorat conservateur, toujours inquiet de voir s'accroître le nombre de résidents étrangers. Mais en réalité, en évoquant des objectifs chiffrés, les pouvoirs publics visent à fluidifier le marché du travail et à faciliter l'embauche de travailleurs étrangers. Les quotas visent donc à augmenter l'immigration, pas à la restreindre.
Oui, parce que Daniel, il y a des besoins réels.
Depuis plusieurs années, en dépit d'un niveau élevé de chômage global, plusieurs métiers sont considérés en tension dans la mesure où les employeurs ne parviennent pas à recruter le personnel dont ils ont besoin. Soit que les métiers sont jugés peu attractifs par les nationaux, dans le BTP ou la restauration par exemple, soit que les compétences requises, dans l'informatique ou la médecine, se trouvent en nombre insuffisant. Et les employeurs concernés se plaignent de la complexité des procédures de recrutement à l'étranger, notamment parce qu'il faut démontrer que l'on ne parvient pas à recruter sur le marché du travail national. Instaurés pour certains secteurs, les quotas permettraient de faire sauter ce verrou.
Pour parler d'un tel sujet, il faut bien sûr parler des chiffres. Quelle est la réalité de l'immigration économique en France et en Europe?
Selon les dernières données 2018 de l'Institut Eurostat, 3 200 000 permis de résidence ont été délivrés dans l'Union européenne pour 2018 à des personnes extérieures à l'Union, les citoyens de l'UE bénéficiant d'une libre installation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas l'Allemagne qui a délivré le plus grand nombre de titres de séjour, mais la Pologne, avec 635 000 titres, surtout des Ukrainiens, contre 543 000 outre-Rhin et 450 000 au Royaume-Uni. On trouve ensuite les trois sœurs latines avec 238 000 visas délivrés par l'Italie, 259 000 par l'Espagne et 264 000 pour la France.
Et en pourcentage de la population active, quelle est l'importance de cette immigration ?
Pour l'Europe prise globalement, elle ne représente que 27% du total, mais elle dépasse 40% dans la plupart des pays de l'Est européen, confrontés à une baisse de leur démographie qu'une forte émigration ne fait qu'aggraver. L'immigration économique ne représente en revanche que 12 à 13% du total en Allemagne et en France, contre 22 à 24% en Espagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. L'an dernier, moins de 34 000 titres de séjour pour raisons professionnelles ont été accordés dans l'Hexagone, contre 65 000 en Allemagne et 108 000 au Royaume-Uni.
Alors la France n'est bien sûr pas le seul pays à vouloir attirer des travailleurs qualifiés étrangers.
Bien sûr que non. Au niveau de l'Europe, une Blue Card a été créée en 2009 pour faciliter l'embauche de travailleurs hautement qualifiés. Mais le système a montré ses limites et seuls 30 000 Blue Cards ont été utilisés en 2018, dont 27 000 par la seule Allemagne. Insuffisant même pour ce dernier pays qui vient de mettre en place des mesures favorables à l'embauche d'étrangers dans les secteurs de pointe en supprimant l'obligation de démontrer que l'on n'arrive pas à recruter des Allemands. De plus, dans le secteur informatique, il n'y a plus de prérequis concernant les diplômes, seule l'expérience étant prise en compte.
D'autres pays en Europe jouent la carte des quotas.
Oui, plus d'une dizaine, mais peu nombreux sont ceux à avoir instauré des quotas. Il y a l'Italie qui limite à 30 000 par an ce type d'embauche, mais qui l'an dernier n'a recruté qu'à peine 14 000 travailleurs étrangers. Quant à l'Autriche, pour les 45 métiers jugés en tension, la limite fixée est de 8% de la population active, ce qui en France représenterait 2,4 millions de personnes.
Et ailleurs, Daniel, est-ce qu'on opère une sélection ?
Nulle part n'est opérée de ségrégation formelle ayant trait à l'origine des migrants. Toutefois, certains pays favorisent certaines origines, notamment l'Espagne, où les descendants d'Espagnols sont prioritaires, de même que les ressortissants de pays ayant signé avec Madrid des accords en matière de droit du travail. Outre le diplôme, d'autres États retiennent un critère de rémunération. Ainsi, au Royaume-Uni, un travailleur qualifié étranger doit pouvoir justifier de 34 000 euros de revenus annuels, soit 2 800 euros mensuels. Ce pays de forte immigration du travail s'est pourtant doté d'un système contraignant de points qu'il faut accumuler pour obtenir le titre de séjour.
Preuve que réguler l'immigration ne veut pas dire la limiter.
Dans un monde globalisé où le besoin de main-d'œuvre est très changeant, aucun pays développé ne peut se passer de l'option migratoire, surtout ceux qui souffrent d'une démographie anémique. Mais confrontés à des opinions publiques de plus en plus réticentes à l'égard de l'immigration, les gouvernements ont tendance à masquer leur volonté d'accueillir plus de migrants du travail. C'est manifestement le cas de la France.
Merci Daniel Vigneron du site myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Entre la Lituanie, petit pays de 3 millions d'habitants au bord de la Baltique, et le Nigeria, géant africain de 200 millions d'habitants, il y a a priori peu de points communs, sauf que le premier a noué un partenariat avec le second sur l'économie numérique dans le cadre de l'Alliance Europe-Afrique. L'expertise de Vilnius, d'un côté le grand marché de Lagos de l'autre. Fin septembre, 15 jeunes Nigérians sont arrivés dans la capitale balte pour un contrat d'un an, Marielle Vitureau.
En Lituanie, comme au Nigeria, Amarachi passe ses journées devant un ordinateur. La jeune informaticienne de 26 ans y travaillait comme analyste. À Kaunas, la deuxième ville lituanienne, elle est employée par Ito, une société qui a notamment développé la signature en ligne pour délivrer les colis postaux.
Je vérifie que les produits qui sont développés correspondent aux exigences des clients et aux standards de qualité avant qu'ils soient livrés. J'ai surtout travaillé sur des outils de télécommunication.
C'est un ami qui lui a parlé de cette offre de travail en Lituanie. Avant de venir, Amarachi n'en avait jamais entendu parler. Mais partir travailler à l'étranger a toujours été son souhait. Ce pays qui vient de regagner son indépendance il y a 30 ans et sa première rencontre avec l'Europe.
J'ai vu l'offre et je suis allée me renseigner sur la Lituanie. J'ai lu que le pays avait l'internet public le plus rapide. J'ai lu des informations sur leurs visas de travail spéciaux pour les start-up. C'était nouveau. J'ai compris qu'il y avait des politiques publiques qui favorisent les technologies et le développement. J'avais des choses à apprendre en y allant.
L'idée de tisser des liens entre la Lituanie et le continent africain revient à Eugenia Kovalova. La jeune Lituanienne a suivi des études africaines au Danemark. Depuis, c'est un leitmotiv. y impliquer les start-up lituaniennes relève aussi de l'évidence. D'ailleurs, elle a installé son activité de consultant au cœur de l'incubateur technologique de Vilnius.
Les sociétés lituaniennes qui travaillent avec les nouvelles technologies ont déjà un grand savoir-faire. Les institutions publiques peuvent aujourd'hui transmettre leurs connaissances sur la manière de mener à bien les réformes. Ces expériences sont tout à la fois très neuves et ont une valeur historique. Nous avons appris par nous-mêmes que les solutions technologiques peuvent permettre de résoudre des problèmes ici, mais là-bas aussi.
Premier impact de l'augmentation des échanges avec l'Afrique. Fin août, un centre de visa a été ouvert au Nigeria car les ambassades lituaniennes les plus proches sont en Égypte et en Afrique du Sud. Eugenia Kovalova n'en doute pas, les sociétés lituaniennes ont tout intérêt à regarder vers ce pays.
Pour une société lituanienne, le marché local est minuscule, surtout quand il s'agit de vendre un produit. Le marché nigérian compte, lui, 200 millions de personnes, soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et quand on parle affaires, il y a de quoi en faire là-bas. Les Estoniens ont développé avec succès leur application de taxi sur les marchés africains. Cela veut bien dire que c'est possible.
Les 15 jeunes Nigérians sont totalement pris en charge par l'association au niveau administratif. Pour les employeurs, l'obtention du permis de travail est réglée, ce qui est généralement une question épineuse lors d'embauche de travailleurs hors Union européenne. Entre 2017 et 2018, leur nombre a doublé. Ils représentent près de 2% des actifs de Lituanie. Parmi eux, les Nigérians sont 200. Lina Tochonienne, responsable de projet Aito, en compte 3 dans son équipe. C'est un avantage pour l'avenir.
Le fait qu'ils arrivent de l'étranger nous permet, nous aussi, d'acquérir de l'expérience. Nous devons adapter nos manières de travailler pour que ce soit aisé pour eux comme pour nous. Dans le domaine de la construction, de la restauration, la question du manque de main-d'œuvre devient de plus en plus critique. On fait de plus en plus appel aux étrangers. Le secteur des nouvelles technologies ne devrait pas être épargné à terme.
Le Nigérian Mimchak Obioa est à la tête du fonds Venture Platform, partenaire africain de ce programme. Les technologies de l'information et de la communication sont un acteur économique de plus en plus important au Nigeria. Et ce programme ne se résume pas pour lui à la venue de 15 jeunes en Lituanie.
Je suis toujours impressionné ici de constater combien la démocratie est jeune. Au Nigeria, c'est un prétexte pour ne pas agir. Je suis aussi impressionné par le fait que le développement technologique soit une priorité.
Quant à la jeune informaticienne Amarachi, elle paraît s'être faite à la vie en Lituanie, grandement facilitée, car comme elle le dit elle-même, la technologie parle le même langage partout dans le monde.
Et dans les pays de l'Est de l'Europe, l'exode de la population entraîne bien sûr des besoins croissants en main-d'œuvre. C'est le grand chassé-croisé des migrations. La Croatie a ainsi assoupli les règles d'embauche en 2020. Les employeurs pourront recruter beaucoup plus facilement du personnel hors de l'Union européenne, notamment dans le secteur du tourisme, Simon Rico.
Cette année, plus de 60 000 travailleurs originaires de pays hors de l'Union européenne ont trouvé un emploi, notamment saisonnier dans le tourisme, en Croatie. La plupart viennent des pays balkaniques voisins, 26 000 Bosniens, 13 000 Serbes, 7 000 Kosovars, 5 500 Macédoniens. Mais il y a aussi des Ukrainiens, des Indiens, des Chinois et même des Philippins, selon les chiffres du HZZ, l'Institut croate pour l'emploi. Pour faire face à l'immigration massive qui prive la Croatie de ses forces vives, les autorités de Zagreb prévoient maintenant de faire évoluer la législation dès 2020 pour faciliter l'arrivée de main-d'œuvre étrangère. Si un employeur ne parvient pas à recruter rapidement, il pourra faire venir un candidat étranger. Quelques garde-fous sont néanmoins prévus. Les travailleurs originaires de pays hors UE ne pourront représenter au maximum qu'un tiers des salariés d'une entreprise, les autres deux tiers devant avoir la citoyenneté croate. Toutes les entreprises n'auront pas non plus l'autorisation de faire venir des travailleurs étrangers, seront notamment exclus du système celles qui ont des arriérés d'impôts, des arriérés de salaire ou les très petites entreprises qui n'ont pas plus d'un employé. Les syndicats croates protestent depuis longtemps contre ce qu'ils considèrent comme une libéralisation du marché du travail. Ils craignent en effet que cette main-d'œuvre étrangère ne vienne freiner la hausse des salaires ou pire, que cela les fasse de nouveau baisser, alimentant encore davantage l'émigration. Le manque de main-d'œuvre a en effet contribué à faire monter les salaires ces dernières années dans le pays. Ils ont progressé de 8,2% en 2018 2018, trois fois plus que la moyenne de 2,7 au sein de l'Union européenne. Au 8 novembre, plus de 12 000 emplois étaient à pourvoir en Croatie. On recherchait notamment des serveurs, des vendeurs, des techniciens de surface, des infirmiers, des économistes, des agents de sécurité et des coiffeurs.
Et après être arrivés sur le sol européen, comment ces professionnels sont-ils accueillis? Comment s'intègrent-ils? En France, une revue de chercheurs, De Facto, éditée par l'Institut des Migrations, s'est penchée sur le sujet. Léa-Lisa Vestera, vous êtes allée rencontrer la doctorante Élodie Druès, qui a interrogé des dizaines de diplômés. Et je vous pose la question de manière très directe. Avoir des diplômes de haut niveau protège-t-il du racisme?
La réponse, vous vous en doutez, est non. L'une des chercheuses citées par la revue De Facto fait sa thèse sur l'expérience du racisme de descendants d'immigrés d'origine subsaharienne avec un bac plus 5. Depuis 5 ans, elle analyse les données d'une gigantesque enquête de l'Institut national des études démographiques. Elle a aussi mené 40 entretiens auprès de diplômés. Et sa conclusion, c'est qu'une qualification très élevée peut protéger du racisme dans le milieu du travail, mais pas à l'extérieur, comme le montre l'exemple de l'un des Français qu'elle a interrogé dans le cadre de ses recherches, Élodie Druès.
J'ai le cas de quelqu'un qui est très diplômé, qui sort de Sciences Po et qui arrive à l'Assemblée nationale et qui se retrouve face à la personne de l'accueil qui lui explique que les cuisines sont à droite. Ces erreurs de catégorisation arrivent fréquemment. Et les diplômés français soulignent que régulièrement, ils sont confrontés à des réactions de surprise lorsqu'ils parlent de leur niveau de diplôme.
Malgré ces erreurs de catégorisation et la surprise auxquelles ces diplômés à la peau noire sont régulièrement confrontés, en France, les personnes d'origine étrangère minimisent les discriminations racistes. C'est l'autre enseignement des 80 entretiens menés par Élodie Druès auprès de diplômés d'origine subsaharienne à Paris et à Londres. Pourquoi est-il si difficile de se dire victime de racisme en France? C'est qu'il y a un certain tabou, explique Élodie Druès.
En France, c'est délicat de parler de race et c'est donc délicat de dénoncer le racisme. Dans le sens où, parce qu'on parle peu de questions raciales, le racisme est quelque chose qui est également considéré comme absent. Si on est dans une société sans race, dans une approche très universaliste, on est dans une société qui n'est pas raciste. On nie le problème.
La situation est complètement différente chez nos voisins de Grande-Bretagne où la question du racisme est une problématique de société assumée.
Dans le contexte britannique, il y a des statistiques ethniques. Il y a un concept de racisme institutionnel donc qui permet de parler du racisme comme quelque chose de structurel, pas comme le fait d'individus isolés, mais bien comme quelque chose qui agit au niveau du système. Et ça rend légitime en fait leur vécu et leur permet plus facilement d'en parler.
Et pour Élodie Druès, ce tabou français, voire le déni des problématiques racistes dans la société, ont un impact sur les politiques publiques pour lutter contre les discriminations. La France est en retard.
Il y a des lois contre les discriminations, il y a des dispositifs qui ont commencé à être mis en place, mais il y a une réticence énorme en fait sur ces questions. Les politiques de lutte contre les discriminations ont été mises en place beaucoup plus tardivement en France qu'au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils commencent à mettre en place ce type de mesures à partir des années 60. Alors qu'en France, ce n'est qu'à partir des années 90 que la question commence à faire débat. Et c'est seulement au début des années 2000 qu'un dispositif de lutte contre les discriminations est véritablement mis en place au niveau juridique.
Il y a un an, le gouvernement français a présenté un nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec 21 grands principes comme la lutte contre la haine sur Internet, renforcer l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme à l'école. Et prévu aussi depuis septembre la mise en place d'un réseau d'enquêteurs et de magistrats spécifiquement formés à la lutte contre la haine raciale. Mais beaucoup reste à faire puisqu'en 2016 encore, 60% des descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne en France disaient avoir été victimes de racisme au moins une fois.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve bien sûr dès demain pour une nouvelle émission.